Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série intitulée « Prêcher la Bible telle qu'elle est ». Prêcher la Bible telle qu'elle est. Prêcher la vraie Bible est un devoir impérieux dans l'Église du Dieu vivant. Sans la Sainte Parole de Dieu, aucune Église ne peut être une Église du Nouveau Testament dans le sens strict du terme. Cependant, on peut prêcher la Sainte Parole d'une façon telle qu'elle laisse les auditeurs sans la moindre nourriture spirituelle. Car ce ne sont pas seulement des mots qui nourrissent l'âme, mais Dieu lui-même. Et à moins que les auditeurs de la Sainte Parole ne rencontrent Dieu dans une expérience absolument personnelle, et jusqu'à ce qu'ils le fassent, ils ne se porteront pas mieux d'avoir entendu la vérité. Hélas, c'est vrai. La Sainte Bible n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour amener les hommes à la connaissance intime et satisfaisante de Dieu, afin qu'ils viennent à lui, afin qu'ils puissent se réjouir en sa présence et goûter la douceur intérieure de Dieu lui-même, et cela au plus profond de leur cœur. Notre première étude de cette série sera intitulée « S'attacher fortement à Dieu ». David dit au psaume 63, verset 9, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Chers amis, la théologie chrétienne enseigne la doctrine de la grâce prévenante, qui, en quelques mots, signifie « avant que l'homme ne cherche Dieu, il a d'abord fallu que Dieu cherche l'homme ». Ça peut paraître bizarre pour certains. Avant qu'un homme pécheur puisse avoir une idée juste de Dieu, il faut qu'il se soit fait en lui un travail pour l'éclairer. Un travail imparfait, d'accord, mais un travail néanmoins vrai et qui est la cause secrète de tout désir, de toute recherche et de toute prière qui peut s'en suivre. Nous nous mettons à la recherche de Dieu pour la seule et unique raison que c'est lui-même qui a mis en nous un élan qui nous pousse à cette recherche. Personne ne vient à moi, dit le Seigneur, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et c'est par cette attirance toute première que Dieu enlève en nous toute trace de gloire pour être venu à lui. L'élan qui nous pousse à chercher Dieu, cela vient premièrement de lui. Mais la suite logique de cet élan consiste de notre part à nous attacher fortement à Dieu. Sachant pourtant que tout le temps où nous le cherchons, nous sommes déjà dans sa main. Souvenez-vous, ta droite me soutient. Dans ce soutien divin et dans cet attachement humain, il n'y a pas de contradiction. Tout est en Dieu, car Dieu est toujours la cause première. En pratique cependant, c'est-à-dire quand l'œuvre première de Dieu a reçu la réponse immédiate de l'homme, l'homme doit rechercher Dieu. Il doit y avoir réciprocité concrète de notre part, si cet appel de Dieu doit devenir l'événement d'une expérience divine particulière. Ainsi le dit le psaume 42, dans le langage vibrant de sentiments tout personnels. Il est dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Chers amis, il s'agit là des profondeurs de Dieu faisant appel aux profondeurs intimes de l'homme. Le cœur avide comprendra cet appel. La doctrine de la justification par la foi, une vérité biblique qui est un merveilleux soulagement face au légalisme stérile et aux vains efforts personnels, eh bien la justification par la foi se trouve de nos jours en mauvaise compagnie et est interprétée de telle sorte qu'elle empêche les hommes de connaître Dieu. On fait du processus de la conversion religieuse un mécanisme absolument sans vie spirituelle. On peut maintenant exercer la foi sans entrer en conflit avec la vie morale et sans créer d'embarras au moi adamique. On peut recevoir Christ sans que se crée dans notre âme ou dans l'âme de celui qui le reçoit un véritable amour pour lui. Cet homme, et j'ajoute cette femme, vous l'avez compris, cet homme est sauvé. Mais il n'a pas faim et il n'a pas vraiment soif de Dieu. En fait, on lui enseigne et on l'encourage sans équivoque à se contenter de peu. De nos jours, le scientifique a perdu Dieu au milieu des beautés de la création divine et nous les chrétiens sommes en danger de perdre Dieu au sein des merveilles de sa sainte parole. Nous avons presque oublié que Dieu est une personne et que comme tel, on peut entretenir des relations avec lui. Il est donc naturel à l'individu de connaître d'autres individus, mais la peine ou la pleine connaissance d'un individu par un autre, cela ne s'acquiert pas en une seule rencontre. Ce n'est qu'après de longues relations amicales que peuvent se découvrir dans toutes leurs mesures les possibilités de chacun. Tout commerce social entre les êtres humains est un contact de personne à personne, allant de la relation la plus simple, à la plus totale et à la communion la plus intime dont soit capable l'âme humaine. La religion, si elle est authentique, est par essence une relation de personne à personne, c'est-à-dire de la créature à son créateur qui est Dieu. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notez Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Donc, Dieu est une personne, et au plus profond de sa nature toute puissante, il pense, il veut se réjouir, il sent, il aime, il désire, mais aussi il souffre comme n'importe qui. en se faisant connaître à nous, il reste dans les limites familières de la personnalité. Il communique avec nous par les voies de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions. Cet échange continuel et familière, on peut dire d'amour et de pensée entre Dieu et l'âme de l'homme sauvé, et bien entendu. Ça, c'est le cœur palpitant qui vibre dans le Nouveau Testament. Cette relation entre Dieu et l'âme nous est connue de façon personnelle et consciente. Il s'agit en effet d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que cette relation ne se fait pas par l'intermédiaire de l'ensemble des croyants en tant que tel, mais l'individu en prend conscience et c'est au travers des individus qui le composent que l'ensemble des croyants y participe. Il s'agit aussi d'une expérience consciente, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas en deçà du seuil de la conscience pour y travailler dans l'incognito, c'est-à-dire à l'insu de l'âme, comme certains peuvent le penser par exemple, et que c'est le cas dans le baptême des nouveaux-nés. Mais voyez-vous, cette expérience, elle se fait dans le champ de la conscience. C'est pas pareil. Là où l'homme peut la connaître comme il connaît tout autre fait d'expérience. Vous et moi, nous sommes en petit, avec nos péchés exceptés, évidemment, ce que Dieu est en grand. Étant fait à son image, nous avons en nous la possibilité de le connaître. Mais à cause de nos péchés, nous manquons seulement de pouvoir. Au moment où l'Esprit Saint nous vivifie et nous régénère, tout notre être devient conscient des liens de parenté qui s'unissent à Dieu et en est transporté de joie et de reconnaissance. C'est donc la nécessaire spirituelle, on peut bien dire, sans laquelle nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Je répète, c'est bel et bien là, on peut dire en quelque sorte, pas seulement une chose nécessaire, mais c'est carrément là que se trouve la naissance spirituelle, et sans laquelle nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Cependant, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un début, car maintenant le cœur se met à la poursuite glorieuse, l'heureuse recherche des richesses infinies de Dieu. C'est là, dis-je, où nous commençons, mais là où nous nous arrêtons également. Aucun homme n'a jusqu'ici réussi à le découvrir, car il n'y a ni limite ni fin aux profondeurs formidables et mystérieuses de la Trinité divine. Océan aux profondeurs infinies qui peut te sonder. Toi qui es environné de ta propre éternité, ô divine majesté. Oui, avoir trouvé Dieu et le rechercher encore, ça c'est le paradoxe de l'amour de l'âme que, on peut dire, de l'âme que méprise, il est vrai, celui qui se satisfait seulement d'une religion facile, mais que justifie l'heureuse expérience des enfants au cœur brûlant pour le Père. Et nous pouvons chanter ces paroles qui disent « Nous te goûtons au pain de vie et désirons toujours nous nourrir de toi. Nous te buvons aux sources bénies et nos âmes assoiffées se veulent remplies de toi. » Alors approchez-vous de ces saintes femmes et de ces saints hommes du passé, et vous sentirez bientôt la chaleur de leur amour pour Dieu, car ils pleuraient sur lui, ils priaient, ils luttaient, et ils le recherchaient jour et nuit, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et quand ils l'avaient trouvé, la découverte n'en était que plus douce au bout d'un si ou d'une si longue recherche. Du reste, Moïse se servait du fait qu'il connaissait Dieu comme raison pour mieux le connaître. Maintenant, a-t-il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Exode chapitre 33, verset 13. Et de là, il se leva pour oser cette requête et il a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Dieu se plaisait à ce grand zèle. Et le jour suivant, il appela Moïse sur le mont Sinaï, et là, dans une procession solennelle, il lui montra toute sa gloire. La vie de David fut un torrent de vie spirituelle, et dans ses psaumes résonne l'appel de celui qui cherche et le cri de joie de celui qui trouve. L'apôtre Paul avouait que le mobile principal de sa vie était son désir ardent de connaître Christ. Il a dit que je puisse le connaître, tel était le but de sa vie, but auquel il sacrifia absolument tout. Et même, il a dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé absolument à tout. Je les regarde donc comme de la boue, afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3, verset 8. Chanter des cantiques est doux au cœur de celui qui recherche Dieu. Et au moment où il le recherche, le chanteur sait qu'il l'a déjà trouvé. Je vois ses traces et je les suivrai, chantaient nos pères. Et cela il y a quelques années. Mais on n'entend plus ce chant dans la grande assemblée, dans les églises d'aujourd'hui. Il est dramatique qu'en ces jours d'obscurité, toute recherche de Dieu ait été faite par nos professeurs et non par nous-mêmes. Tout l'enseignement est centré sur l'acte initial par lequel on accepte simplement Christ, un terme qu'incidemment on ne trouve pas du tout dans la Bible, et on ne nous invite pas à rechercher auprès de Dieu une révélation plus profonde de sa part à notre âme. Nous avons donc été pris au piège d'une logique falsifiée qui insiste sur le fait que si nous avons trouvé Dieu, nous n'avons plus besoin de le chercher davantage. On nous sert cela comme étant le mot final de l'orthodoxie et on considère que tout chrétien qui a reçu un enseignement biblique doit l'accepter tel quel et ne peut croire autrement. Ainsi, à ce sujet, tout le témoignage de l'Église qui adore, qui chante et cherche Dieu est laissé carrément de côté. L'expérience de la théologie du cœur, vécue par toute une multitude de saints à la fois débordante, est rejetée en faveur d'une interprétation présomptueuse de l'Écriture sainte qui aurait certainement paru étrange à un Augustin, à un Rutherford ou à un Brainerd. Voyez-vous, au milieu de cette grande indifférence, eh bien, je suis heureux de reconnaître que certains ne se contenteront pas d'une logique uniquement superficielle. Ils admettront la force des arguments, puis les larmes aux yeux, ils changeront de direction et se retireront à l'écart dans un endroit solitaire pour adresser à Dieu cette prière. Ô Dieu, montre-moi ta gloire. Ils désirent goûter, ils désirent toucher de leur cœur, ils désirent voir avec les yeux de l'âme ce Dieu merveilleux. Je veux de propos délibérés. Je veux encourager les chrétiens à désirer Dieu ardemment. C'est justement l'absence de ce désir qui nous amène au pauvre état spirituel dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nos vies religieuses raides et empruntées sont le résultat de notre manque de ce saint désir. Le contentement de soi est un ennemi mortel de toute croissance spirituelle. Nous devons désirer ardemment Christ. Autrement, il ne pourra se révéler à son peuple. Il attend que nous le désirions vraiment. Comme c'est dommage qu'avec beaucoup d'entre nous, il ait à attendre si longtemps. Si longtemps et souvent en vain. Il est vrai que chaque époque a ses caractéristiques propres. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de complexité sur le plan religieux. On trouve rarement parmi nous la simplicité qui était en Christ. On l'a remplacée par des programmes, par des méthodes, des arrangements et une foule d'activités pressantes qui occupent notre temps et notre attention, mais ne peuvent satisfaire les désirs du cœur. Le manque de profondeur de notre expérience intérieure, notre adoration superficielle, ça c'est l'imitation servile du monde qui caractérise nos méthodes promotionnelles, sont donc la preuve absolue que de nos jours nous ne connaissons Dieu que de façon imparfaite. Et c'est tout juste si nous connaissons la paix de Dieu. si nous voulons trouver Dieu dans toutes les formes extérieures de la religion, eh bien nous devons en tout premier lieu être décidés à le trouver, lui, et agir ensuite dans la simplicité. Aujourd'hui comme de tout temps, Dieu se révèle aux petits enfants et se dérobe dans d'épaisses ténèbres aux yeux des sages et des trop prudents. Nous devons rendre simple notre approche de Dieu. Nous devons nous dépouiller jusqu'aux éléments essentiels et fort heureusement, on n'en trouvera que quelques-uns. Nous devons donc rejeter toute tentative pour impressionner et venir avec la candeur naïve du petit enfant. Pourquoi pas ? Et si nous faisons cela, il ne fait aucun doute que Dieu répondra rapidement. Quand la religion a dit son dernier mot, il est peu de choses dont nous avons besoin, sinon de Dieu lui-même. La mauvaise habitude de chercher Dieu, et cela nous empêche effectivement de trouver Dieu dans sa pleine révélation, c'est dans ce « est ». Dans ce « est » que réside notre grand malheur. Si nous omettons le « est » et « t », nous ne tarderons pas à trouver Dieu, et en lui, nous trouverons ce à quoi nous avons aspiré en secret toute notre vie. En recherchant uniquement Dieu, nous ne devons pas craindre de mettre notre vie à l'étroit et de restreindre les mouvements de notre cœur ouvert à des horizons plus vastes. C'est le contraire qui se produira. Nous pouvons bel et bien nous permettre de faire de Dieu notre tout, de nous concentrer sur lui et de sacrifier le multiple pour l'unique. Voyez-vous, l'auteur de l'étrange classique anglais « The Cloud of Unknowing », « La nuée de l'ignorance », il nous enseigne comment faire cela. Il est dit « Élève ton cœur à Dieu dans un doux mouvement d'amour et destine ta prière à lui seul, et non pour ce qu'il te donne. Ne pense surtout pas à autre chose que à Dieu lui-même, afin que rien ni personne d'autre que Dieu le Père et son Fils bien-aimé ne fasse son œuvre dans ton intelligence et dans ta volonté. C'est cette attitude-là de l'âme qui plaît le plus à Dieu. De nouveau, il nous recommande de nous appliquer dans la prière à nous dépouiller de tout, même de notre théologie. Car une simple pensée pour Dieu sans autre motif que Dieu lui-même est absolument suffisante. À la base de la pensée de cet auteur, nous trouvons le grand fondement de la vérité du Nouveau Testament, car il explique que par lui-même, il sous-entend ceci, « Dieu t'a créé, Dieu t'a racheté à un grand prix, Dieu t'a amené par grâce à l'état où tu es maintenant. » S'il te fallait mettre une étiquette sur la religion et de la résumer en un mot pour la posséder mieux, alors prends un petit mot court, cela est préférable à de grands mots. En effet, plus le mot est court, plus il s'accorde avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Et un tel mot, c'est simplement Dieu, Papa Céleste, ou encore un autre mot, amour. Quand l'Éternel partagea Canaan entre les tribus d'Israël, Lévi ne reçut aucune part. Or Dieu lui dit simplement, « Moi, je suis ta part et je suis ton héritage. » Et par ces mots, il le rendit encore plus riche que tous ses frères. Oui, le plus riche dans le monde. On trouve ici un principe spirituel qui reste valable pour chacun des prêtres du Très-Haut. Voyez-vous, l'homme qui a Dieu pour trésor, il a toute chose en une, en lui. Beaucoup de trésors ordinaires peuvent lui être refusés, ou il les possède. Le plaisir qu'il aura de les posséder sera tellement atténué qu'ils ne seront jamais nécessaires à son bonheur. Ou s'il doit les voir disparaître un à un, il sentira à peine leur perte, car possédant la source de toute chose, il en a toute satisfaction, tout plaisir et toute joie. Quoi qu'il puisse perdre, il n'a rien perdu en réalité, car il a maintenant tout en un. Et il l'a sans défaut. Il l'a légitimement, et cela pour toujours. Prions maintenant ensemble. Ô Dieu, j'ai goûté ta bonté, et tout en m'apaisant, elle a aiguisé ma soif d'encore plus de bonté. Je suis douloureusement conscient de mon besoin de ta grâce renouvelée. J'ai honte de ne pas assez te désirer. Ô Dieu trois fois saint, je veux te vouloir. Je désire être rempli de ce désir. J'ai soif d'être rendu plus assoiffé encore. Montre-moi ta gloire, je t'en prie, et que ainsi je puisse te connaître vraiment. Dans ta miséricorde, commence un nouveau travail d'amour en moi. Dis à mon âme, lève-toi mon amour, lève-toi ma beauté, et viens avec moi. Puis donne-moi la grâce de me lever et de quitter pour te servir, de quitter cette terre pleine de brume où j'ai tant erré. Et tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, avant de vous donner quelques chants d'un très lointain passé, j'aimerais vous communiquer quelque chose que le Seigneur m'a donné de vous transmettre pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification. Écoutez bien. Laissez-moi vous enseigner le secret de la puissance. C'est par la louange qu'on transporte les montagnes. quand survient un ennemi, évoquez tous les sujets de reconnaissance que vous pouvez avoir, et puis louez le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours. Apprenez à rendre grâce en tout temps. Le grand secret de la force qui transporte les montagnes, c'est un cœur débordant de reconnaissance. C'est un cœur qui loue son Seigneur. Demeurez en Jésus-Christ. Les œuvres qu'il fait, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes parce que il va auprès du Père. Oui, de plus grandes. Et pourtant, les aveugles recouvraient la vue, les impotents marchaient, les lépreux étaient nettoyés, et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. De plus grandes, parce qu'il va auprès du Père. C'est ici le prodigieux aboutissement de l'histoire. C'est ici le miracle des âges. La toute-puissance divine libérée par l'homme qu'anime et qu'inspire le Saint-Esprit. Levez-vous et quittez le tombeau de la maladie, de la pauvreté, du doute, du désespoir et de l'impuissance. Debout, rayonne, car voici que vient la lumière et que sur toi se lève la gloire du Seigneur. Un avenir merveilleux vous attend, un avenir où vous connaîtrez la joie d'être en bénédiction illimitée aux autres. Et pour qu'il en soit ainsi, contentez-vous de n'être que des canaux. Laissez-vous utiliser, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Saint Jean chapitre 15, verset 7. À vous et à tous ceux pour lesquels vous priez. Amen. Et maintenant, chers amis, j'aimerais vous transmettre quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous, 1952. C'était à Londres, dans le Moody, Auditorium, ça s'appelait, je crois. Le Moody Auditorium. Et j'espère que ces chants vous apporteront quelque bonheur dans votre âme, esprit et votre cœur.
flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to its waters, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There is a river that flows from God above. There is a fountain that's filled with His great love. Come to its waters, there is a vast supply. Calvary is that fountain that never shall run dry. Calvary is that fountain that never shall run dry.
Pray,